C'était à la fois pour nous un prolongement finalement de notre ADN citoyenne, de nos missions de service public et donc de la mission d'accessibilité bancaire, et en même temps un élément de différenciation très fort et surtout de structuration de cet ADN. Je crois qu'on avait besoin d'inscrire cet engagement citoyen dans ce qu'est l'entreprise, et donc quel meilleur moyen que de modifier finalement les statuts de l'entreprise, qui est le principe de l'entreprise à mission.
Chère auditrice, cher auditeur, avant toute chose, je vous souhaite une très belle année 2023. Face à tous les défis qui bousculent notre quotidien, gardons panache et enthousiasme. Et un peu la santé aussi, en tout cas davantage que moi en ce moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Machine à Sens, 100% dédié aux entreprises à mission. Il est complété d'une newsletter hebdomadaire du même nom que je vous invite à découvrir pour plonger davantage dans l'univers de ces entreprises. Au micro, je reçois des dirigeants, des managers de mission qui expliquent leur motivation, leur cheminement vers la société à mission et les actions lancées depuis, mais également des experts et des auteurs qui viennent éclairer un sujet sociétal. Je m'appelle Vivien Bertuzzo et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Adrienne Aurel-Pagès, directrice de l'engagement citoyen de la Banque Postale. Entreprise de 30 000 collaborateurs, connue de tous, mais pas tant que ça en fait, la Banque Postale est passée société à mission il y a près d'un an. Elle fait d'ailleurs partie des toutes premières dans le secteur bancaire. Alors, pourquoi connue de tous, mais pas vraiment? Eh bien parce que la Banque Postale, c'est une jeune banque dans un vieux groupe. On l'associe très fortement à la Poste, à raison, c'est son actionnaire, mais la Banque Postale, ce n'est pas que la banque de détail. Elle se définit comme une actrice de la transition juste. Adrienne nous explique ce que c'est d'ailleurs dans l'épisode. Le passage en société à mission est un choix profond d'évolution de la banque pour être davantage contributrice dans la société. Alors c'est clairement pas un chemin facile, et cela nécessite des choix. Certains sont assez facilement mis en place, d'autres sont beaucoup plus radicaux, et d'autres encore, vous verrez, sont très difficiles à faire. Dans cet épisode, on revient sur le contexte dans lequel évolue la Banque Postale en lien avec cette transition, et notamment sur les débats qui animent le secteur financier. Adrienne revient bien sûr sur l'évolution en société à mission, l'articulation avec celle du groupe La Poste qui l'a précédée de quelques mois, le choix d'une raison d'être très longue et d'objectifs transformatifs. Elle nous fait également rentrer un petit peu dans les coulisses du comité de mission qui vaut le détour tant il dénote par sa composition. Pour terminer, Adrienne raconte comment elle structure son activité liée à une création de poste et les compétences nécessaires pour y arriver. Bref, c'est assez amusant. Et enfin, on termine avec Aurel San, c'est la deuxième fois. Choix musical guidé par les paroles au caractère social du rappeur. Sans plus attendre, je laisse place à l'écoute. Bonjour Adrienne.
Bonjour.
Merci beaucoup de me recevoir dans les magnifiques locaux de la Banque Postale en plein cœur de Paris. Et je dois avouer que c'est, je passe souvent en vélo devant et je me dis, oh, ça doit être sympa de travailler ici.
Donc, on reconnaît bien le building, ouais.
Et c'est un vrai plaisir en plus d'enregistrer cet épisode et j'ai vraiment hâte de cet échange parce qu'en fait il y a beaucoup de sujets passionnants à aborder et je parle souvent de finances durables sur la newsletter et donc je suis vraiment content qu'on puisse aborder ce sujet parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur et depuis longtemps. Mais avant de passer directement à l'épisode, la traditionnelle présentation de l'invité, donc bien évidemment tu pourras amender, corriger, ajouter des éléments. Alors Adrienne, tu es, je dirais, une ISR, une investisseuse socialement responsable. Donc tu as commis un article dans Ouzbek Erika où tu disais que dès 2005, tu avais écrit ton mémoire sur le sujet de l'investissement responsable. On va dire qu'à l'époque, ça devait être assez new age, hein, presque, de travailler sur ces sujets-là. Après, tu as fait un parcours assez classique en finance dans différentes institutions et tu as décidé de te plonger ensuite vraiment dans la partie institutionnelle au sein de l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, où tu t'es occupé notamment des sujets de finances durables. Et on va dire que pour avoir passé un peu de temps à Bruxelles, ce sont des sujets hyper technique. En 2018, tu as décidé de repasser du côté terrain en rejoignant la Banque Postale Asset Management avec un objectif, le passage à un investissement 100% socialement responsable, très rapidement. En 2021, Philippe Heim, le président du directoire de la Banque Postale, décide de te confier la nouvelle direction de l'engagement citoyen et tu rejoins également le COMEX de la Banque Postale, mais on reviendra sur tous ces aspects-là un peu plus tard dans l'épisode. Alors forcément, Ton poste amène également à côtoyer de très près le passage en société à mission de la banque qui s'est fait en début d'année, mais après un long cheminement, j'imagine.
Ouais,
des éléments à rajouter ?
Non, mais écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Je crois que juste en quelques mots, effectivement, moi, je suis vraiment une experte de la finance historiquement. C'est un petit peu par hasard aussi, même si sans doute j'avais une intuition que je n'arrivais pas vraiment à formuler moi-même, que c'était une évidence en fait d'intégrer les enjeux extra-financiers dans l'investissement. Mais je suis d'abord venue par l'angle technique de la finance avant de devenir effectivement aujourd'hui une convaincue de la finance durable.
Très bien. Alors revenons sur un petit peu sur la banque postale, parce que c'est vrai que c'est en soi tout le monde connaît la banque postale,
mais sans vraiment la connaître.
Et il y a un élément qui est absolument clé dans l'identité de la banque postale, c'est ce côté citoyen. Partout. La banque postale dit « nous sommes une banque citoyenne ». Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire d'être une banque citoyenne ?
Alors concrètement, une banque citoyenne pour nous, c'est une banque qui met la transition juste au cœur de son action. C'est vraiment la transition juste, c'est le thème central de notre plan stratégique. On l'a mis au cœur de notre raison d'être. Ça se retranscrit dans les objectifs d'entreprise à mission dont on reparlera sans doute. La transition juste, aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin de l'expliquer. Hein, c'est accompagner la transition environnementale tout en maîtrisant les impacts sociaux et aussi territoriaux. L'enjeu évidemment territorial est important pour nous à la Banque Postale de cette transition et même faire en sorte finalement en maîtrisant les impacts environnementaux de notre économie, de travailler un nouveau modèle social, puisque au-delà du fait que notre modèle économique depuis 50 ans a usé les ressources de la planète, il a aussi très largement accentué les inégalités. Donc c'est finalement revenir à un modèle économique et social durable. C'est ça la transition juste. Et en 2020, quand on l'a mis au cœur de notre plan stratégique, c'était encore des éléments qui étaient assez nouveaux, dont on ne parlait pas beaucoup. Aujourd'hui, la COP a mis la transition juste au cœur, en particulier de ses décisions. On s'en réjouit. C'est d'abord une banque citoyenne, c'est mettre la transition juste au cœur de notre action et c'est faire en sorte que nos clients deviennent ces acteurs de la transition juste. Alors nos clients, tu le dis, hein, la Banque Postale, elle est connue avant tout pour être une banque de particuliers. Je pense que quasiment chacun d'entre nous a ou a eu un livret A à un moment donné à la Banque Postale. Mais aujourd'hui, c'est un groupe qui est diversifié avec aussi des produits d'épargne importants. Donc on a aussi toute une filière patrimoniale. Tu l'as dit, la société de gestion dans laquelle j'ai commencé, qui produit nos fonds d'investissement. On a aussi une banque privée. On a aussi des clients personne morale, c'est pas très connu, mais en fait la Banque Postale est le premier financeur des collectivités locales aujourd'hui avec 25% de part de marché. Sur le secteur des entreprises, là on est clairement challenger hein, par rapport aux autres banques, mais c'est quand même un secteur qu'on investit de plus en plus. Et puis on vient de racheter 100% de CNP Assurance, et donc aujourd'hui la Banque Postale est le 11e groupe de banques assurances en Europe. Donc ça c'est voilà, la transition juste, accompagner nos clients dans cette transition juste, tous les clients. Et puis je dirais, le dernier élément de cette citoyenneté, c'est essayer de fédérer un écosystème autour de nos sujets. On a commencé en particulier il y a 10 ans déjà avec le Club de l'Initiative, qui est le regroupement des associations avec lesquelles on travaille. Et ces associations à la fois nous remontent des enjeux du terrain, mais aussi nous aident à co-construire des offres et nous nourrissent finalement dans notre activité. Donc une banque citoyenne pour nous, c'est vraiment une banque qui s'appuie sur tout son environnement, univers associatif, des startups aussi, on pourrait y revenir avec notre politique d'innovation, des ONG qui sont bien sûr des acteurs importants pour nous, et puis évidemment les autres acteurs de la place, puisque à la Banque Postale, on a l'ambition de transformer la finance, mais bien sûr on n'y arrivera pas seul.
Et alors juste parce que j'avais pas vu, c'est quoi le Club des Initiatives ?
Alors le Club de l'Initiative, c'est un club qui regroupe une vingtaine à peu près d'associations, des associations qui ont pignon sur rue, hein, comme la Croix-Rouge, le Secours Populaire, des associations plus spécialisées en finance comme Crésus par exemple ou Créasol, et qui nous aident, enfin déjà nous remontent tout ce qu'elles voient sur le terrain, ce qui nous permet nous aussi d'ajuster notre action. et aussi sont des vrais partenaires de développement. Par exemple, sur Crésus, on propose aujourd'hui un lien dans notre banque en ligne vers leur outil de gestion budgétaire. Ou Créasol, qui fait du microcrédit particulier, donc pour des particuliers qui auraient besoin de quelques centaines d'euros, par exemple, pour s'acheter un ordinateur parce qu'ils sont en recherche d'emploi. Aujourd'hui, la Banque Postale ne fait plus de microcrédit, mais en revanche, on va instruire les dossiers et ça va être fait par Créasol.
D'accord, ok. Très intéressant. Et donc, comme tu le disais, tout le monde connaît la Banque Postale, a eu un livret A probablement à un moment donné à la Banque Postale. Et surtout, on associe inévitablement la Banque Postale à la Poste. Mais en réalité, il y a quand même une petite différence entre les deux. Et c'est vrai qu'on a vu en 2022 une grande campagne de la Banque Postale. Nous avons 16 ans. C'est ce qui fait de vous une jeune banque. Parce que c'est vrai que les acteurs traditionnels de la banque en France, quand même des acteurs qui sont installés de longue date. Et donc, quand on est jeune, on entend plein de choses. C'est un petit peu d'ailleurs le sujet de la campagne, hein, c'est entendre plein de choses. On est radical, on a des visions un peu différentes, etc. Est-ce que être une jeune banque, ça a un avantage justement pour tester des choses que peut-être des banques un peu plus traditionnelles n'oseraient pas faire?
Ouais, c'est intéressant, effectivement. Alors, on est effectivement une jeune banque dans un vieux groupe.
Exactement.
Tu l'as dit. Donc, la Banque Postale s'est quand même créée sur les services financiers de la Poste. Bon, la Poste, groupe multiséculaire, donc en particulier tous les livrets que chacun d'entre nous peut avoir sont souvent issus des services financiers de la Poste. En 2006, il y a 16 ans, effectivement, quand la Banque Postale a été créée, il n'y avait pas besoin d'une nouvelle banque. Il y avait déjà 5 banques bien implantées en France. En revanche, c'était important de créer une banque territoriale avec vraiment cette proximité et cette accessibilité vis-à-vis des Français. Alors cette proximité d'abord, elle s'est matérialisée à la création de la Banque Postale en 2006 par le fait que l'État a donné à la Poste la mission d'aménagement du territoire qui précise que dans la loi, 90% des Français doivent être à moins de 5 km d'un point postal. C'est dans les grandes lignes, c'est ça. Donc ça, c'est avec cette mission d'aménagement du territoire que la Banque Postale s'est créée et donc cette notion de proximité très forte. 3 ans après, on y a ajouté la dimension d'accessibilité puisque l'État a donné une 4e mission de service public à la Poste et directement à la Banque Postale, qui est cette mission d'accessibilité bancaire qui permet aujourd'hui à 1,5 million de clients d'utiliser le livret A comme un vrai porte-monnaie électronique. Ils vont faire des retraits au guichet, ils vont pouvoir percevoir des revenus sociaux sur le livret A l'utiliser pour certains prélèvements, alors qu'évidemment pour toi et moi, le livret A, c'est uniquement un outil d'épargne. C'est 1,5 million de clients, c'est des gens qui seraient complètement exclus du système bancaire autrement, c'est des gens du voyage, des migrants, des sans domicile fixe, et avoir en fait ce livret A comme outil de maintien social, c'est absolument essentiel dans l'inclusion sociale en France. Donc c'est vraiment une mission qui est très importante et qui déjà nous différencie complètement et fait qu'à notre naissance, on était déjà un peu différents, si je file un peu ta question. Aujourd'hui, ce qui fait de nous une banque différente dans sa jeunesse, je dirais c'est deux éléments. D'abord, quand on est jeune, on continue à se développer. Et donc effectivement, la Banque Postale continue d'être un groupe en développement, ce qui aujourd'hui dans l'univers bancaire est assez rare. On continue à croître, à développer des activités. Et notre gros challenge aujourd'hui, c'est l'intégration de la CNP pour en faire vraiment un groupe de banque assurance complètement intégré. La deuxième grande différence, et ce qui fait qu'effectivement on fait les choses différemment, c'est en particulier sur la dimension entreprise, où, je te l'ai dit, on est un challenger. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas hérité d'un portefeuille d'investissement de financement d'entreprise important, comme c'est le cas de certains de nos concurrents, ce qui effectivement aujourd'hui nous donne un avantage compétitif, en particulier sur le secteur des énergies fossiles, puisque nous, dès le début, on n'a pas voulu aller sur ce secteur. Hein. Ça a été déjà un choix dès le lancement de notre activité entreprise. On a toujours privilégié les énergies renouvelables. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le renoncement on a donc décidé l'année dernière d'arrêter de financer les entreprises du secteur des énergies fossiles qui n'ont pas un plan de transition crédible aligné sur l'accord de Paris à horizon 2050. Où effectivement, ce renoncement, il n'est pas énorme par rapport à notre stock. En revanche, c'est quand même dans l'avenir, tous les jours, en fait, on se prive quand même d'opportunités. Mais c'est vrai que par cette jeunesse et ce positionnement différenciant, on a pu prendre ce choix, faire ce choix de manière plus affirmée.
D'accord. Oui, effectivement, il y avait cette annonce qui avait été... Au début, la Banque Postale paraissait presque une sorte de trublion quand ça a commencé, et puis finalement d'autres ont suivi derrière. Parce que oui, effectivement, ça ne représente pas forcément le gros des stocks, mais j'imagine que ce sont des opportunités en moins, et généralement des opportunités capitalistiquement
bien
assez
sûr.
Importantes.
Bien sûr.
On ne parle pas quelques dizaines de milliers d'euros à chaque fois.
Hein, Ouais.
Est-ce que tu pourrais revenir aussi sur quelques initiatives phares qui ont été lancées ces deux dernières années, peut-être notamment à l'aune de ce plan stratégique dont tu parlais? J'en ai quelques-unes en tête, mais je voudrais pas te biaiser dans ta réponse.
Alors, je dirais que la grande initiative de l'année dernière, enfin de cette année en fait, c'est notre passage entreprise à mission, dans la lignée du passage entreprise à mission de La Poste, qui elle-même est devenue entreprise à mission en juin 2021. Donc on s'est évidemment inscrit dans ce mouvement. Mais tu l'as dit, on reste une filiale d'un groupe postal avec une activité bancaire spécifique. Et puis le secteur de la banque est extrêmement réglementé. Donc de par même la nature de notre activité, on a évidemment une indépendance par rapport à notre actionnaire. Donc c'était aussi important pour nous de marquer cette différence au sein de cet univers concurrentiel bancaire en devenant nous-mêmes entreprise à mission. Donc on pourra revenir sur les éléments de l'entreprise à mission.
Alors, on reviendra dessus même.
Voilà, donc ça. Ça, je dirais que c'est un élément clé de 2022. Un autre élément, c'est en 2021, on en a un peu parlé, le fait qu'on a été une des trois premières institutions financières au monde à avoir notre trajectoire de décarbonation validée scientifiquement par le Science Based Target, qui est l'organisme aujourd'hui qui valide toutes les trajectoires de décarbonation en s'assurant qu'elles reposent sur des scénarios scientifiquement validés et donc les trajectoires sont crédibles, transparentes. Donc c'est transsectoriel et nous on a participé à construire la méthodologie sur les services financiers et par ailleurs donc on a été une des trois premières à avoir notre trajectoire de décarbonation. C'est de cet engagement fort que a découlé notre prise de position sur les énergies fossiles, puisque aujourd'hui tous les scénarios, tous les scientifiques et tous les scénarios de décarbonation sont unanimes sur le fait que c'est dès maintenant qu'il faut arrêter l'exploration sur le pétrole et le gaz. Donc c'est dès maintenant nous qu'on arrête de financer de tels projets.
Il y a une initiative que tu en avais parlé parce que tu étais intervenu à ProDurable et tu en avais parlé à cette occasion-là et je me suis dit, tiens, c'est original, on ne s'attend pas à associer le terme, donc c'est le crédit consommation à impact, on ne s'attend pas forcément à associer le terme de crédit consommation et d'impact. Qu'est-ce que c'est un crédit à la consommation à impact?
Ouais, alors peut-être avant de te décrire un peu plus en détail le crédit consommation à impact, je voudrais revenir justement sur cette notion d'impact dans les produits financiers. Aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation unique qui définit ce qu'est un produit financier impact. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que tu l'as dit en introduction, j'ai un peu touché du doigt la complexité de la réglementation européenne. Et en fait, entre un crédit consommation, un crédit aux entreprises, un fonds d'investissement, les caractéristiques sont tellement différentes ce serait difficile d'avoir une réglementation unique et pragmatique, facilement mise en œuvre par les acteurs sur l'ensemble des produits financiers impact. Donc en fait, quand on est une banque et que notre réputation, qui est un actif essentiel évidemment pour une banque, en particulier quand on, face à nos clients, on s'engage à être citoyen, on s'engage dans une transition, on est entreprise à mission, l'enjeu greenwashing est absolument majeur pour nous. Donc on fait on fait extrêmement attention à chaque fois qu'on utilise le mot responsable, citoyen, à impact dans notre communication, dans notre distribution vis-à-vis de nos clients, à s'assurer qu'on a des éléments clairs, auditables, qui permettent d'assurer ça. Donc ça, c'est vraiment d'ailleurs le rôle de la direction de l'engagement citoyen, de construire la doctrine qui permet d'assurer que effectivement un produit est bien responsable ou impact. Donc dans les grandes lignes, globalement, pour définir cette doctrine, on va soit s'appuyer sur une réglementation existante, c'est le cas par exemple sur les produits d'épargne qui aujourd'hui encadrent très précisément ce qu'est un fonds d'investissement responsable, soit on va utiliser un label qui existe, c'est aussi le cas dans les produits d'épargne.
Ça, c'est le label ISR.
Exactement, comme le label ISR. Soit on va, et c'est là où le club de l'initiative notamment est intéressant, on va co-construire avec une partie prenante qui nous donne finalement l'aval un peu de cette dimension impact, parce que on a ce regard extérieur et ce challenge en fait d'une partie prenante qui est neutre, que ce soit une association ou une ONG. C'est ce qu'on a fait sur le crédit consommation à impact, effectivement. Alors je suis d'accord avec toi, la dimension consommation et impact, surtout aujourd'hui là dans le contexte de sobriété, c'est un peu un oxymore, mais on souhaite aussi avoir cette approche qui est quand même pragmatique et qui est qu'on a besoin à un moment donné de financer des biens, on a besoin de continuer à vivre dans notre économie, même si l'enjeu de la sobriété et de la décroissance sont de plus en plus forts. Donc pour nous, un crédit consommation impact, c'est deux choses. C'est un crédit qui va financer des prêts de rénovation énergétique avec un taux qui est bonifié. C'est-à-dire qu'on a un fléchage très clair du crédit consommation qu'on va faire vers un projet particulier de rénovation. Où c'est, donc ça c'est dans le bâtiment, et dans la mobilité, on a aussi un crédit consommation impact, soit pour financer l'achat d'un véhicule vert. Donc là, c'est la même logique que pour les travaux de rénovation, le prêt il va être bonifié. Mais, je te l'ai dit en introduction, notre enjeu, il est aussi sur la transition juste. Donc, aujourd'hui, on sait bien que les véhicules électriques sont aussi les plus chers. Et tu vois, le cœur de notre clientèle à la Banque Postale ne peut pas forcément se permettre d'acheter un véhicule électrique. Donc, on a réfléchi, en particulier avec certaines ONG qui nous ont aidés à concevoir cette dimension. Un crédit consommation impact chez nous, ça peut aussi permettre de financer un véhicule thermique, mais du coup, on va compenser les émissions qui sont générées par notre client dans l'utilisation de ce véhicule pendant les 2 ans par l'achat de crédit carbone. Et au-delà de cette dimension compensation, ce qui a permis aussi à l'association, l'ONG avec laquelle on a travaillé, de valider cette dimension à impact, c'est le fait qu'on accompagne la commercialisation de ces crédits par une pédagogie vis-à-vis du client sur une utilisation plus responsable de son véhicule, comment faire pour économiser en essence, on l'a lancé il y a 2 ans, crédit consommation impact. Évidemment, aujourd'hui, cet enjeu-là, il est encore plus prégnant vu l'augmentation du coût de l'énergie. Donc c'est soit un crédit qui va être dédié à vraiment une consommation responsable, soit une consommation dont on va compenser les effets et surtout éduquer notre client à une utilisation plus raisonnée de son bien.
D'accord, ok. Bon, c'est plus clair désormais. Plus clair. Y a un aspect, si on prend un peu de recul par rapport à la Banque Postale, là, mais qu'on regarde les services financiers de manière générale. En plus, comme tu as été dans différents postes, tu avais différentes visions aussi des services financiers. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les positionne à la fois comme des éléments essentiels de la transition. On aura besoin des services financiers, que ce soit les banques, que ce soit les fonds d'investissement, etc., pour financer la transition en tant que financeur et accompagnateur. Mais on les présente également comme des trublions qui résistent, qui freinent le plus possible, notamment sur le retrait des projets très carbonés, etc. Toi, quel est ton positionnement par rapport à ça? Parce que je sais que c'est des sujets sur lesquels t'as pas mal réfléchi, et t'en as déjà un petit peu parlé, mais comment la banque postale gère ce sujet-là, parce que en plus tu l'as dit, maintenant il y a une partie fonds d'investissement aussi, il y a une partie donc c'est voilà, la banque de détail, j'ai presque envie de dire, c'est la partie presque simple. Mais quand on commence à financer la transition, peuvent se poser des questions quand même assez profondes sur ces sujets-là.
Ouais, non, je crois que tu mets le doigt effectivement sur la dimension plus complexe, hein, pour les services financiers. Et objectivement, il n'y a pas de réponse blanc ou noir. Et effectivement, on est nous-mêmes à la Banque Postale en permanence en train d'essayer de trouver notre chemin par rapport à ces enjeux. Je crois que effectivement, pour poser le contexte, il y a vraiment deux visions du rôle d'une banque qui s'oppose. Peut-être pas qu'ils s'opposent si franchement, mais qui en tout cas cohabitent et ont parfois du mal à se réunir. C'est d'une part, d'un côté, est-ce que la banque est là vraiment pour orienter l'économie et pour finalement imprimer une vision qu'elle aurait de l'économie de demain en dirigeant ses financements vers des projets particuliers et pas d'autres, vers certains acteurs et pas d'autres. Et donc vraiment avec ces financements, elle oriente elle a une vision politique en fait de l'économie de demain et de la société qu'on souhaite construire. Ou, et ça c'est une autre vision de la banque, est-ce que la banque elle est uniquement un pourvoyeur de capitaux qui est là pour répondre aux besoins de ses clients, quels que soient ses clients, et donc à partir du moment où elle gère les risques de ses clients, parce que le rôle d'une banque c'est de gérer les risques, soit du risque de liquidité, du risque de crédit, c'est vraiment le rôle d'une banque. À partir du moment où elle a fait son travail de gestion des risques, elle n'a pas à avoir une vision plus forte sur l'activité qu'elle finance et elle peut financer n'importe quel type d'activité. Donc c'est vraiment deux visions assez différentes du rôle de la banque qui, je dirais, aujourd'hui oppose aussi un petit peu les visions européennes et la vision anglo-saxonne, hein, très clairement. Donc, c'est sûr que nous, à la Banque Postale, on pense que globalement, une banque doit aussi donner une orientation, et c'est ce qu'on a fait avec l'arrêt du financement des énergies fossiles. Maintenant, c'est pas toujours simple d'avoir aussi ce positionnement sur l'ensemble de nos activités. Aujourd'hui, par exemple, une grande partie de notre bilan, il est sur le crédit immobilier. On n'est pas prêt aujourd'hui à arrêter de financer l'ensemble des biens que nos clients peuvent nous proposer. On va le faire progressivement, mais en tout cas, cette dimension plus dirigiste, clairement, on ne l'a pas. Donc, je pense qu'on ne peut pas répondre blanc ou noir, mais en tout cas, c'est sûr que ces deux visions-là sont en permanence en train de s'opposer et créer les arbitrages en fait, qu'on fait finalement décision par décision. Donc, comment on essaye, nous, d'éclairer ce chemin ? En tout cas, notre objectif est de rationaliser au maximum le débat de la finance durable. Donc, de sortir d'une vision. Je pense qu'en France, le débat sur la transition écologique a été trop politique finalement, nous notre objectif est vraiment de le rationaliser, de s'appuyer sur des faits scientifiques, sur des validations par des organismes tiers indépendants, notamment des acteurs qui nous aident à construire nos positions. Donc c'est pour ça qu'on a fait valider notre trajectoire de décarbonation qu'on essaye vraiment d'avoir la vision la plus factuelle possible dans les prises de décision, notamment par exemple en s'appuyant aujourd'hui sur la taxonomie européenne qui est quand même la réglementation qui définit les grandes orientations sur l'économie de demain et donc c'est sur cette vision-là qu'on essaye de s'appuyer.
Il y a un élément dont tu parlais vis-à-vis des risques. Et je me posais la question, de plus en plus de banques prennent en considération les risques climatiques. Comment ça se passe à la Banque Postale ?
Oui, c'est une très bonne question et là aussi c'est un enjeu qui est complexe parce que en réalité finalement les donc Je te le disais, le secteur bancaire est un secteur extrêmement réglementé. Et donc, nous, on est une des banques systémiques européennes. Donc, la BCE en particulier regarde très fortement tout ce qu'on fait comme l'ensemble des autres banques systémiques. Et je dirais que la BCE elle-même, elle est un petit peu duale dans ses exigences. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des exigences de plus en plus fortes en matière d'intégration du risque climatique qui, aujourd'hui, dans la réglementation que à la Banque Postale on applique, mais que évidemment l'ensemble des banques européennes appliquent, on est avant tout sur un enjeu de transparence. Donc il faut publier la grande publication qui va arriver dans les prochaines années, c'est celle autour de la taxonomie, donc ce qu'on appelle le Green Asset Ratio, c'est-à-dire le pourcentage du bilan globalement d'une banque qui est alignée avec les activités de la taxonomie. Et donc, aujourd'hui, la réglementation prudentielle, elle nous demande, voilà, globalement, de dire où on en est sur nos expositions en matière, par exemple, aussi de secteurs fortement émissifs, où on en est donc en matière d'alignement avec la taxonomie, mais elle ne va pas aller tellement plus loin que la transparence. La réglementation prudentielle, elle est très en retard par rapport à la réglementation sur une autre partie de l'investissement que je connais bien, parce qu'effectivement, c'est de là dont je viens, qui est la partie investissement. Où là, sur les fonds d'épargne, l'intégration, elle est beaucoup plus forte et la réglementation européenne en particulier, elle est devenue beaucoup plus dirigiste sur vraiment qu'est-ce qu'un fonds responsable. Ouais. Ça, on a des définitions qui sont de plus en plus claires. Pourquoi c'est possible sur l'investissement ? C'est possible parce que, in fine, même si les définitions sont très claires, à un moment donné, dans le processus d'investissement, d'ingérence, c'est-à-dire, c'est en gros, le gérant, évidemment, il suit toute une série de règles, il va regarder un certain nombre de données, enfin, c'est très encadré, un processus d'investissement, et c'est décrit de manière très complète dans un prospectus, qui est quelque chose qu'on te remet quand tu vas investir dans un fonds et que tu lis pas forcément, mais en tout cas tout est très réglementé, mais à la fin il y a quand même une dimension un peu arbitraire, de libre arbitre du gérant qui finalement va prendre sa décision d'investissement ou pas. Ça, c'est inhérent à la logique d'investissement. C'est très différent dans la partie octroi de crédit, où aujourd'hui un processus d'octroi de crédit est vraiment extrêmement encadré, extrêmement réglementé. Et finalement, la marge de manœuvre, entre guillemets, du banquier est beaucoup plus limitée que dans l'investissement. Bon, ce qui est logique parce que le niveau de risque n'est pas forcément le même. Quand on investit, c'est souvent aussi de l'investissement en actions. Donc, on a plus de risques. Donc, on peut se permettre d'être un petit peu plus libre dans son appréciation. Quand on fait de l'octroi de crédit, c'est quelque chose de beaucoup plus strict. Mais pourquoi je te disais ça ? C'est que si je reviens aux exigences de la BCE, en réalité, elle est un peu elle-même ambivalente, à la fois exiger une intégration de plus en plus forte de risques climatiques et en même temps des process aujourd'hui d'octroi de crédit qui sont ultra, ultra encadrés et qui finalement laissent aujourd'hui assez peu de marge de manœuvre à l'intégration réelle du risque climat qui, il faut le dire, repose sur des données qui sont soit inexistantes, soit très parcellaires, sur des méthodologies qui ne sont pas là et sur, à un moment donné, une nécessité aussi de se projeter dans l'avenir. En fait, la gestion du risque climat, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours d'ailleurs bien compris parce qu'on réduit un peu le risque climat à la dimension risque physique, risque de transition, quelque chose de très technique. Mais en fait, de manière générale, la gestion du risque climat, c'est prendre un risque sur un nouveau business model. C'est en gros comment une entreprise va être capable de transformer son activité pour la rendre plus résiliente à l'ensemble des crises qui vont arriver, que ce soit des crises climatiques ou des crises sociales, mais avec cette idée qu'on a derrière la transition juste, que finalement tous ces enjeux sont liés et que l'ensemble de notre modèle économique doit évoluer puisque ce changement doit être absolument systémique. Donc en fait, dans le risque climat, dans le risque environnemental, dans la gestion du risque social, on est plutôt sur une appréciation de l'innovation et du changement qui rend du coup l'octroi de crédit plus complexe et nécessite peut-être un peu plus de liberté que ce qu'aujourd'hui la réglementation nous permet.
D'accord, donc un vaste chantier.
Ouais.
Vaste chantier qui devrait continuer à nous occuper et à nous préoccuper, je pense, encore quelques années. Avant de continuer l'épisode, petit coup de projecteur sur une missive de la machine à sens envoyée il y a quelques jours où je livre mon cahier des tendances du sens pour 2023. J'analyse 8 tendances qui vont jouer un rôle important dans les mois à venir. Je parle de marque employeur dans un contexte économique trouble, de l'émergence d'un nouveau vocabulaire dans les débats sur l'entreprise, de la systématisation des labels sur les démarches RSE ou encore des perspectives à double tranchant pour la société à mission. Ne manquez pas cette lecture, vous pouvez la retrouver en lien dans les notes de l'épisode ou sur machineasens.substack.com. Et maintenant, place à la suite de l'épisode. Je te propose qu'on passe à l'entreprise à mission, parce que c'est vrai que la Banque Postale a fait grand bruit quand même en passant entreprise à mission, parce qu'il y a peu de banques qui ont fait cette démarche-là jusqu'à présent, et je pense qu'il y en aura peu qui feront cette démarche-là tout court. Mais déjà, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi la Banque Postale a décidé de passer société à mission ?
Alors, d'abord, je te le disais, on s'inscrit dans la démarche engagée par notre actionnaire, La Poste, qui est elle-même devenue entreprise à mission en juin 2021. Alors c'était à la fois pour nous un prolongement finalement de notre ADN citoyenne, de nos missions de service public et donc de la mission d'accessibilité bancaire dont je t'ai parlé en introduction, et en même temps un élément de différenciation très fort et surtout de structuration de cet ADN. Je crois qu'on avait besoin d'inscrire cet engagement citoyen dans véritablement ce qu'est l'entreprise, et donc quel meilleur moyen que de modifier finalement les statuts de l'entreprise, qui est le principe de l'entreprise à mission. Donc ça a été une motivation forte, et puis l'autre motivation, c'est que finalement à la fois dans l'exercice de la raison d'être, dans la rédaction des objectifs, dans surtout toute la mise en œuvre du statut d'entreprise à mission, c'est vraiment un projet collectif global qui implique l'ensemble des collaborateurs et qui permettent de lancer une dynamique extrêmement forte autour d'une colonne vertébrale très claire. Donc ça, c'est la deuxième raison. Donc, déjà, il y a un enjeu historique de structuration, une raison qui collective, en fait, de motivation de l'ensemble de nos salariés. Et puis, une troisième raison qui est en lien avec ce que je te disais sur notre dimension citoyenne. Nous, on croit beaucoup à la dimension écosystème, au fait de s'entourer. Et donc, en particulier dans le statut d'entreprise à mission, fait d'avoir un comité de mission qui est là pour nous éclairer sur la mission, nous accompagner, mais aussi, bien sûr, nous challenger et nous donner des orientations un peu nouvelles. C'était aussi quelque chose de très important pour nous. Aujourd'hui, d'ailleurs, notre comité de mission, il est présidé par Natacha Valla, donc qui aujourd'hui est la doyenne de l'école de management et de l'innovation de Sciences Po, mais c'est aussi une ancienne, c'est une économiste, ancienne de la BCE, spécialiste de macroéconomie bancaire. Donc, c'est pas par hasard, évidemment, qu'on l'a choisie, et elle est présidente de notre comité de mission. Donc, si tu veux, quand elle parle à notre comité exécutif, quand elle va parler à notre directeur financier, à notre directeur des risques, elle sait de quoi elle parle. Tu vois, on n'est pas sur quelqu'un qui a une vision, encore une fois, très, très politique et très militant du sujet. Non, on est vraiment sur un économiste qui regarde concrètement comment une banque doit construire la résilience de son activité et de son bilan.
Ben c'est parfait, là, t'as posé le cadre de toutes les prochaines questions,
donc,
donc c'est parfait. Peut-être pour commencer, et c'est vrai qu'en préparant cet entretien, je me suis rendu compte que t'avais participé au groupe de travail de la communauté des entreprises à mission sur les relations groupe-filiale.
Ouais.
Donc ça permet de faire le lien avec cette première question. Comment ça s'est passé la relation avec le groupe La Poste? Mmh. Est-ce que c'est eux qui vous ont dit bon bah maintenant que nous on est passé société à mission, à vous mmh. on vous passe le mmh. on vous passe le bâton, à vous la suite? Est-ce que il y a eu une interférence, parce que le terme serait probablement trop négatif, mais une intervention de la part de La Poste? Comment ça s'est passé cette relation avec le groupe?
Ouais, ça a été très fluide. Alors il y a pas eu de demande express, hein, de la part de notre actionnaire, mais encore une fois, nous, dans ce secteur concurrentiel, et tu l'as dit, effectivement, aujourd'hui, il y a une autre banque comme nous qui est entreprise à mission, mais c'est vrai que ça reste quelque chose de très différenciant. Donc, nous, ça nous semblait important d'appuyer cette différence. Donc, ça a été assez logique. Et évidemment, dans la construction de la raison d'être, et en particulier des thèmes essentiels de la raison d'être, on s'est appuyé, bien sûr, sur la raison d'être et sur les objectifs d'entreprise à mission de La Poste. Il fallait créer un ensemble cohérent, et bien sûr ça a été validé par notre actionnaire avant d'être et retravaillé. D'ailleurs, on a eu des échanges avec eux pour s'assurer que c'était totalement en ligne. Donc à la fois on était complètement en ligne, et en même temps on affirmait notre spécificité de métier bancaire qui encore une fois aussi est spécifique, ne serait-ce que par sa réglementation. Et ensuite, dans les objectifs et même derrière dans les indicateurs, on a toujours cherché la cohérence vraiment dans le dialogue, et donc on a certains indicateurs entreprises à mission qui sont repris dans les indicateurs entreprises à mission de La Poste, voilà, de façon très naturelle. Enfin, tous les indicateurs entreprises à mission de La Poste qui impliquent la Banque Postale sont repris dans nos propres indicateurs. Après, nous, on en a plus dans nos propres indicateurs. Ouais.
D'accord, ok. Non, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est peu fréquent encore ce cas de figure où le groupe passe société à mission et la filiale passe société à mission.
Voilà, et tout à fait, ouais. Et pardon, un élément que j'ai oublié de préciser, c'est que pour assurer cette fluidité dans les échanges, on a un des membres de notre comité de mission, qui est par ailleurs au comité exécutif de La Poste et qui est aussi en charge de Nicolas Routier, qui porte les sujets engagements sociétaux au sein de La Poste et qui est aussi est membre du comité de mission de La Poste, donc qui fait vraiment la courroie de transmission aussi entre les deux comités.
Oui, ce qui est mieux.
Oui,
tant qu'à faire.
Ouais, tout à fait. Ouais.
On va revenir sur la raison d'être et les objectifs.
Oui.
Alors, je te demanderai pas de réciter par cœur la raison d'être
du groupe,
de la Banque Postale, parce que c'est vrai qu'elle est assez longue.
On a voulu une raison d'être longue. Ouais.
Mais justement, parce qu'elle est, elle est très distinctive en fait.
Ouais.
J'avais fait une étude un petit peu sur une cinquantaine de raisons d'être et on était sur 149 caractères en moyenne.
Ouais.
Banque Postale est probablement à quasiment 10 fois plus.
Ouais.
Pourquoi ce choix d'une longue raison d'être?
Ce choix, alors on a voulu déjà faire vraiment la différence entre une raison d'être et un slogan. On avait quand même déjà ce slogan, alors je ne sais pas si j'utilise le bon terme, mais peut-être que...
Cette signature de la marque.
Ouais, voilà, signature de marque, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, c'est la Banque Postale Citoyenne. Avant, notre nouvelle marque, c'était Banque et Citoyenne. Bon, en tout cas, voilà, on avait cette signature de marque qui était très forte. Et donc, on voulait, avec la raison d'être, avoir quelque chose de plus construit, plus nourri. Et donc, dans notre raison d'être, on a choisi finalement d'abord un préambule autour de... expliciter ce que c'est que cette notion de transition juste, qui encore une fois, quand on a sorti la raison d'être, n'était pas si évident. Donc on a vraiment l'explication du fait que la transition juste, c'est environnementale, sociale et territoriale, et donc c'est très clair dans notre première phrase. Et puis ensuite, on a voulu expliciter notre rôle de banquier, assureur. C'était aussi au moment où on intégrait la CNP, donc c'était important d'articuler sur cette dimension d'assurance, et de souligner l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles on travaillait, les clients, les collaborateurs et le reste finalement de l'écosystème.
D'accord. Et donc si tu rencontres quelqu'un et qui te demande « c'est quoi la raison d'être de la Banque Postale ?», qu'est-ce que tu réponds ?
Alors, je réponds que c'est vraiment autour de la transition juste, faire notre métier de banquier pour accompagner les habitudes, les projets de consommation, d'épargne, d'investissement de nos clients. C'est-à-dire sur l'ensemble finalement des besoins de nos clients, faire notre métier banquier avec la transition juste comme boussole.
Ensuite, donc, il y a trois objectifs. Alors, je vais me permettre de les lire, comme ça, au moins, ça sera ouais, plus simple. Donc, le premier objectif, c'est transformer notre modèle de banque assurance par la culture de l'impact environnemental, social et territorial.
Ouais.
Donc, on retrouve cette notion de transition juste et l'environnement, le social et territorial. Le deuxième, c'est développer et promouvoir des produits et services répondant aux enjeux environnementaux, sociaux et territoriaux. Et le troisième, c'est faire progresser les meilleurs standards et les pratiques réglementaires de la banque assurance par l'exemple de notre action.
Tout un programme.
Tout un programme, effectivement. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette notion de... on est presque à un moment clé de notre évolution. Je ne vais pas dire on va bifurquer, parce que le terme maintenant est un peu connoté, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de... On utilise l'entreprise à mission pour évoluer.
Oui, absolument. Alors absolument, c'est vraiment l'enjeu de structuration et de définir cette colonne vertébrale qui doit être notre boussole à chaque décision. Et on ne dit pas forcément que toutes nos décisions seront aussi engageantes peut-être que celles sur les énergies fossiles. On n'est pas encore évidemment dans cette radicalité, mais en tout cas, on se posera la question. Et donc ça, c'est absolument essentiel. Ce qui est essentiel surtout, c'est la mise en œuvre de statuts d'entreprise à mission où il y a une dimension évidemment très importante, on l'a dit, sur déjà la modification juridique, sur le comité de mission qui est extrêmement important, mais surtout on a voulu que ces objectifs derrière soient déclinés pour l'ensemble de nos collaborateurs. Donc nous, à la direction de l'engagement citoyen, un de nos gros chantiers là, de fin d'année en particulier, c'est de travailler avec l'ensemble des directions pour décliner les grands objectifs de l'entreprise à mission dans des objectifs qui soient très spécifiques quasiment à chacun des collaborateurs et pas rester dans une généralité je contribue à l'entreprise à mission globalement en suivant une formation sur ce sujet. Évidemment, l'enjeu de l'information, pour y revenir, il est clé, mais l'objectif, c'est bien vraiment de transformer le métier de banquier. Et donc, nous, on est vraiment là pour travailler avec notre expertise finance durable, notre connaissance des enjeux de l'entreprise à mission et les métiers qui, évidemment, connaissent par cœur leur quotidien pour trouver un objectif commun qui puisse vraiment à la fois s'articuler avec les objectifs de l'entreprise à mission, mais surtout s'articuler avec leur quotidien à eux et leur permettre de remplir leurs propres objectifs.
Oui, parce que ça c'est un des écueils que je vois moi dans beaucoup d'entreprises à mission, c'est alors, on a des superbes objectifs, voire des objectifs opérationnels derrière, mais qui ne sont pas forcément déclinés dans la réalité, dans le quotidien de toutes les équipes. Et c'est vrai que c'est, en gros, tout le monde n'est pas capable de répondre à la question.
Ouais.
Moi, dans mon quotidien, je contribue à l'entreprise à mission de cette manière-là.
Ouais.
Alors, dans une plus petite entreprise, c'est déjà pas très simple.
Oui.
Mais j'imagine qu'à la Banque Postale, vous êtes combien aujourd'hui au total ?
On est 30 000 en tout.
Ouais. Donc... est-ce que parce que là tu dis t'es en plein dedans donc
ouais.
Mais est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de la manière dont ça peut se passer?
Ouais, alors d'abord objectivement c'est un travail de long terme hein, on est qu'au début mais tu l'as très bien exprimé hein, notre objectif c'est vraiment que chaque collaborateur soit conscient sache comment il contribue à l'entreprise à mission. Aujourd'hui on n'y est pas hein, je pense qu'on va dire les choses clairement, mais en tout cas c'est l'objectif vers lequel on tend. Peut-être des leviers qui nous aident. Je dirais deux leviers essentiels. D'abord, la pédagogie autour du sujet. Donc, on travaille très étroitement avec la direction de la communication, avec la communication interne en particulier, pour faire beaucoup de pédagogie sur le sujet. On a tout un volet de l'intranet spécialisé sur l'entreprise à mission. On a fait un livret dédié. On fait beaucoup de vidéos, d'événements. On va bientôt faire avec la présidente du comité de mission ce qu'on appelle un café engagé, où là, les gens se connectent et ou viennent s'ils veulent pour participer et écouter un débat. Donc voilà, on a beaucoup d'actions en interne pour essayer de faire mieux comprendre ce sujet. Un autre levier qui est très important qu'on vient d'actionner, c'est celui des ambassadeurs. Bon, c'est pas original, je veux dire, dans toute mise en œuvre d'un enjeu transversal dans une entreprise. Hein. Aujourd'hui, c'est les enjeux finance durable, mais disons, il y a 10 ans, c'était le digital. On a besoin d'ambassadeurs dans l'ensemble finalement des directions. Donc on a créé un réseau d'ambassadeurs qui aujourd'hui a à peu près 70-80 personnes. Et en gros, c'est à peu près une à deux personnes de chaque direction, chaque en tout cas grand métier, qui sont vraiment des personnes alors là, qui, dans leur fiche de poste, ont un rôle très clair hein, sur la transformation de leur métier et le lien avec l'engagement citoyen. Je te disais que c'est, le fait qu'on est devenu entreprise à mission, c'était aussi en lien avec la mise en œuvre d'un nouveau plan stratégique et le sujet de l'engagement citoyen, il est au cœur du plan stratégique. Donc évidemment, certaines personnes ont ça au cœur de leur fiche de poste. Et donc, nous, c'est vraiment nos relais dans l'ensemble de ces métiers. Donc, on va à la fois, évidemment, les former, leur donner beaucoup d'informations, mais surtout essayer de générer la transversalité, le partage de bonnes pratiques entre directions plus ou moins avancées sur voilà, la façon dont chacun met en œuvre l'entreprise à mission. Et donc ça, c'est, je dirais, notre axe de travail essentiel aujourd'hui pour vraiment ancrer ces objectifs dans le quotidien de nos collaborateurs.
Oui, parce que c'est vrai que quand vous avez communiqué sur l'entreprise à mission, donc il y a la raison d'être, les trois objectifs, et après c'est 18, je crois, objectifs opérationnels qui
alors,
sont dans le livret.
Alors, dans les indicateurs aujourd'hui, on doit en avoir, oui, une petite vingtaine.
Oui, quelque chose comme ça.
Ouais.
Et donc ça, chacun de ces objectifs-là vont être ensuite déclinés dans le quotidien des collaborateurs.
Exactement, okay. Avec c'est ça, on a un certain nombre de sous-objectifs à l'intérieur de nos trois objectifs, mais qui sont surtout assortis d'indicateurs qu'on suit et qui sont suivis aussi dans le cadre du plan stratégique.
Il y a un élément dont tu en as déjà pas mal parlé, mais j'aimerais qu'on revienne dessus parce que je trouve que c'est hyper intéressant et souvent pas suffisamment pris en considération par les entreprises à mission, c'est l'aspect territorial. Tu le disais, on a beaucoup parlé des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux qui sont clés et toutes les entreprises à mission s'en saisissent, mais beaucoup moins de l'enjeu territorial. Pourquoi est-ce que vous en avez fait, vous, un aspect aussi central dans votre mission?
Alors, d'abord, par notre très fort ancrage territorial, hein, avec notre mission d'aménagement du territoire et le fait qu'on a une proximité qui est inégalée en France en matière de maillage territorial. En particulier, nous, ça se matérialise vraiment, je dirais, avec l'accompagnement des collectivités locales c'est aujourd'hui une typologie de clients avec lequel on a développé les produits les plus innovants. Donc c'est avec eux qu'on a développé les prêts verts, donc qui sont des prêts qui sont bonifiés et qui sont dédiés à des projets de transition environnementale pour les collectivités locales, donc évidemment de rénovation énergétique, de mise en place de mobilité douce, de construction d'une usine de traitement des déchets ou traitement de l'eau. Et on vient de lancer d'ailleurs les prêts sociaux qui sont des prêts, eux, qui vont participer par exemple à la construction d'écoles, d'établissements de la petite enfance, d'établissements sportifs, etc. Donc effectivement, pour nous, la matérialisation en fait de notre action, elle se fait dans les territoires et au plus près de nos clients, et en particulier via ces collectivités. Ouais.
Okay. Oui, non, mais c'est. Ça fait totalement sens hein, en soi, mais c'est vrai que c'est intéressant de vous auriez pu dire ça c'est du social ou c'est de l'environnemental ou c'est les deux, mais d'accentuer sur le côté territorial, déjà ça montre que vous êtes implanté un peu partout, mais qu'il y a un enjeu effectivement de développement et de transition aussi sur les territoires.
C'est ça. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on vient de signer un partenariat avec le Shift Project pour justement le déploiement. Ils viennent de sortir les cahiers résilience sur les territoires, en fait c'est sur à peu près 6 territoires, donc c'est des recommandations adressées aux collectivités locales sur comment contribuer à rendre leur territoire plus résilient, qu'il soit en littoral, en montagne ou en zone urbaine. Et donc voilà, pour nous, en fait, participer justement à cette pédagogie, à cette connaissance de ces enjeux-là, c'est un de nos rôles essentiels.
Il y a dans le livret de mission, je le mettrai dans les notes du podcast d'ailleurs, parce qu'il est bien fait, il est intéressant. Vous faites mention du dialogue social.
Oui.
Alors ça, c'est le parent pauvre, en fait, dans l'aspect juridique. Et toutes les entreprises qui ont des syndicats ou autres disent « Ah, mais l'entreprise à mission se désintéresse de ces sujets-là. Il n'y a pas d'obligation d'avoir au sein du comité de mission un membre syndical ou autre. Évidemment, dans une entreprise de 30 000 personnes, le dialogue social est encore plus fort, j'imagine. En tout cas, il y a beaucoup plus de représentation. Comment est-ce que vous avez appréhendé ce sujet-là ?
Ouais. C'est vraiment une question importante qu'on s'est posée. Effectivement, on n'a pas voulu faire différemment de ce que la loi posait. Et donc, on n'a pas voulu imposer que la loi demande ce qui est un collaborateur membre du comité de mission. On n'a pas souhaité que ce soit un élu. Ça aurait pu être un élu. En tout cas, on a souhaité que chaque collaborateur qui souhaitait devenir membre du comité de mission fasse candidature. Donc nous, on a globalement fait une petite sélection essentiellement sur la motivation. Et ensuite, on a fait un tirage au sort, tout simplement. Donc on a tiré au sort deux collaborateurs, un homme, une femme, pour être membre du comité de mission. Ça aurait pu être un élu, il se trouve que les deux ne le sont pas. Voilà, donc en tout cas, on a fait en sorte que les collaborateurs qui soient membres du comité de mission soient en dehors de cette dimension. En revanche, c'est évidemment très important pour nous d'impliquer les élus dans la construction de cette nouvelle gouvernance ne serait-ce que dans le fait qu'encore une fois, l'entreprise à mission est un projet totalement collectif que l'ensemble des collaborateurs doit s'approprier, quel que soit finalement le prisme par lequel il l'aborde. En discutant avec les élus, on a décidé, et puis c'était aussi en lien avec les exigences nouvelles réglementaires aussi qui demandent aux élus de se former sur les enjeux environnementaux et sociaux. Donc on a décidé de créer une commission paritaire, on appelle commission engagement citoyen, qui est à moitié formée de membres de comités de mission, dont en l'occurrence je fais partie, et d'élus. Et on se réunit quelques fois par an pour finalement présenter à la fois les travaux du comité de mission et puis recueillir les remarques des élus, leurs idées, leurs orientations sur comment les travaux du comité de mission, comment l'entreprise à mission de manière générale doit évoluer. Donc c'est effectivement un nouveau lieu du dialogue social.
C'est intéressant. De toute façon, je pense que là, tout le monde apprend en marchant parce qu'il y a
C'est ça qui est passionnant effectivement avec l'entreprise à mission, notamment sur les enjeux de gouvernance où effectivement la loi est quand même très
laconique.
Très laconique, exactement. Et y compris d'ailleurs, et c'est aussi un autre élément de réponse dans tes questions sur l'articulation entre le groupe et la filiale, parce qu'évidemment, qui dit groupe dit actionnaire et donc dit gouvernance. Et donc, en l'occurrence, évidemment, la Poste est à notre conseil de surveillance. Et donc, comment aussi on articule le comité de mission avec le conseil de surveillance, avec d'ailleurs aussi les comités exécutifs, plus de management. Donc nous, par exemple, on a choisi que un des administrateurs indépendants du conseil de surveillance, qui se trouve aussi être la présidente du comité stratégique du conseil de surveillance, soit observatrice du comité de mission et que du coup, c'est par ce biais-là en particulier que les travaux du comité de mission sont présentés aussi régulièrement au conseil de surveillance. Donc en tout cas, voilà, sur un peu tous les éléments de la gouvernance, mais c'est beaucoup de discussions en interne et il y a certains sujets qui sont pas totalement simples parce qu'on touche sur des choses en plus extrêmement structurées, mais en tout cas ce qui est passionnant, c'est qu'on pousse un peu les frontières de la gouvernance.
Justement, parlons du comité de mission parce qu'en fait, j'ai presque envie de dire, c'est pas un comité de mission classique, parce que c'est un comité de mission qui est costaud, il y a quand même du monde dans le comité de mission. C'est 12...
18 personnes.
18 personnes, oui, c'est 12 externes.
Exactement.
C'est 18 personnes, donc c'est quand même pas mal. Après, il y a des sous-comités, etc.
Des groupes de travail.
Peut-être avant de commencer, parce que je discutais de ça il n'y a pas longtemps avec une entreprise qui se posait la question de quelle personne nommer en tant que président de comité de mission. Pour vous, ça sert à quoi un président de comité de mission? Parce qu'en plus, la loi ne le définit pas. Hein, donc, à quoi ça sert?
Alors, il y a une dimension évidemment très forte dans l'orientation des travaux et dans la direction finalement que doit prendre l'entreprise à mission. Donc, Natacha, elle a effectivement un rôle très important dans la direction qu'on va prendre, le type de travaux aussi qu'on va décider de faire ou pas. Donc, on définit un plan de travail avec elle en tout cas pour nous c'était essentiel que ce soit quelqu'un qui connaisse parfaitement notre métier, qui comprenne parfaitement nos enjeux pour nous éclairer de la manière la plus constructive. Après, plus largement, notre comité de mission donc il est effectivement nombreux, on a voulu s'entourer de plus de matières grises mais aussi d'avis différents, et en fait on a différents groupes finalement. Donc on a voulu qu'il y ait évidemment des économistes académiques hein, donc qui soient ceux qui vraiment dirigent la réflexion avec nous, donc évidemment Natacha, on a aussi Charlotte Garde qui est une économiste du FMI brillante, on a Dominique Bourg, un philosophe spécialiste de la transition juste, ou Benoît Leguet qui dirige le think tank I4C. Donc en tout cas voilà, des gens qui réfléchissent énormément au sujet de la transition juste et qui vont nous nourrir. On a voulu aussi, et ça c'est un deuxième groupe, des gens qui soient aux prises avec la réalité d'une entreprise et finalement les compromis que ça entraîne hein, de mettre en œuvre une stratégie d'engagement citoyen, de mettre en œuvre une entreprise à mission. Et donc on a des dirigeants d'entreprise. On a par exemple Sandrine Boutier-Streff qui est, Head of CSR de Sanofi. Donc c'est intéressant parce que l'industrie pharmaceutique, c'est un secteur qui est très réglementé comme celui de la banque. Donc on a clairement des éléments de comparaison. Donc ça c'est un deuxième groupe, et puis on a un troisième groupe qu'on attend peut-être un peu plus dans un comité de mission, qui est celui finalement de la société civile, où on a donc des représentants d'ONG, des représentants d'associations qui sont là pour être un petit peu plus les trublions dont tu parlais au départ nous donner des aspects différents, divergents. On a par exemple une représentante de Pour un réveil écologique, voilà, ce mouvement d'étudiants qui a beaucoup fait parler d'eux lors des remises de diplômes. Donc voilà, avec l'idée d'avoir aussi la vision d'un jeune pour nous éclairer aussi dans nos choix. Et puis bien sûr, donc le quatrième groupe, c'est plutôt l'interne. Donc dans l'interne, on a représenté notre actionnaire La Poste, l'actionnaire principal de La Poste qui est la Caisse des dépôts hein, dans la constitution du pôle financier public et puis des représentants internes, les collaborateurs notamment.
Et alors comment ça se passe? Parce que 18 personnes, enfin moi généralement je dis toujours aux entreprises 6-8 c'est déjà pas mal.
C'est vrai.
Ça doit être sympa à gérer.
Je te cache pas que c'est un travail effectivement qui est colossal. Qui est passionnant parce que vraiment la qualité de ce que nous apportent les membres du comité de mission est énorme, et donc ça nous fait beaucoup réfléchir et beaucoup avancer. Mais effectivement, on a trois comités par an. Donc c'est trois comités qui durent entre 1h30 et 2h. Objectivement, effectivement, le temps de parole de chacun, il est assez limité sur 18 personnes. Donc, on a un ordre du jour qui est très précis, qui est très préparé en amont, et qui laisse un petit peu moins de place aux échanges que si on était plus nombreux. C'est pour ça que on a organisé des groupes de travail qu'on fait vraiment travailler, entre chaque comité de mission. Donc du coup là on est en sous-groupe et ça permet d'avoir plus d'échanges là avec les membres du comité de mission. On les sollicite aussi sur des projets particuliers. Déjà aussi, il y a des membres du comité de mission dans notre commission d'engagement citoyen. Mais voilà, si on a des besoins des questions précises sur des sujets plus particuliers, on va pouvoir leur faire une présentation d'une demi-heure pour recueillir leur retour sur un sujet en particulier. On n'hésite pas à les solliciter en dehors, en tout cas, du cadre de la réunion du comité de mission.
Alors les groupes de travail, c'est des groupes de travail thématiques, c'est...
Oui, des groupes de travail thématiques, donc par exemple sur l'impact, donc justement comment nous aider à continuer à construire cette doctrine de l'impact. On a un groupe de travail sur l'animation en interne, donc comment on fait vivre ce sujet de l'entreprise à mission, comment on fait partager l'entreprise à mission. On a un groupe de travail sur aussi la définition des plans de transition ou encore sur la réflexion justement sur les nouveaux outils de gestion des risques pour les banques.
D'accord, ok. Non, c'est intéressant parce que pour le coup, là, de fait, le rôle du le membre du comité de mission a un rôle quand même important. Hein.
Oui.
C'est pas juste je participe trois fois par an à une réunion.
On les sollicite quand même. On les sollicite. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis aussi aux membres de mon équipe. Hein. Il faut qu'on se dise, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur ces personnalités-là. Il faut aussi qu'on les intègre nous dans notre réflexion en se disant, est-ce que sur ce sujet-là, je peux pas être challengée là et bénéficier en fait du regard d'un des membres du comité de mission. Ouais.
Et après, comment ça se passe? Parce que là, c'est vrai qu'avec les personnalités qu'il y a au comité de mission, on pourrait se dire, ça fait presque doublon avec, je sais pas, le comité stratégique que vous pouvez avoir. Il n'y a pas d'autres instances où il y a des personnalités de ce niveau-là qui réfléchissent aussi à l'avenir de la banque?
Si, bien sûr. En particulier, oui, le conseil de surveillance, bien sûr. En fait, on arrive vraiment avec un dialogue très transparent hein, de ce qui est fait. L'articulation en fait très claire entre le plan stratégique et le comité de mission. Enfin, vraiment, le comité de mission est là quasiment pour guider la mise en œuvre d'un des piliers du plan stratégique sur le citoyen. Donc, du coup, la fluidité est réelle.
Petite nouveauté sur le podcast. Je me suis rendu compte que les entreprises à mission se retrouvaient souvent dans les mêmes situations. J'ai donc décidé qu'une fois par mois, je répondrai aux questions d'un auditeur. Donc si vous êtes en réflexion ou en chemin vers l'entreprise à mission et que de nombreuses questions vous taraudent, contactez-moi pour que nous enregistrions un échange ensemble. De même, si vous avez des questions plus techniques sur le comité de mission, la déclinaison opérationnelle, la gouvernance, l'OTI, l'articulation entre mission et plateforme de marque ou tout autre sujet, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour me contacter, rien de plus simple, soit via LinkedIn ou par email à vivien@machineassence.info. Et maintenant, place à la fin de l'épisode avec Adrien. Bon, mais en tout cas, j'imagine que ça doit effectivement te prendre pas mal de temps.
On s'en met pas.
pour terminer, quelques questions plus personnelles, si je puis dire. La première est liée à ton poste, parce que c'est une création de poste. Mm. Je ne connaissais même pas l'existence de ce type de poste-là. Mm. Et il est assez stratégique, parce qu'il est quand même un haut comex, rattaché au président du directoire. Mm. Est-ce que tu te souviens, quand Philippe Heim est venu te voir en disant... Adrienne, j'aimerais que tu prennes ce poste.
Ce qui est fascinant avec ce type de poste, déjà, c'est que d'une entreprise à une autre, les périmètres sont extrêmement différents. Et donc, tu sais pas ce que c'est qu'une direction de l'engagement citoyen, c'est normal. Parce que quasiment, je dirais, direction de l'engagement citoyen, c'est presque propre à la Banque Postale. Évidemment, j'ai des homologues dans les autres banques et dans plein d'entreprises, mais on a tous des périmètres finalement très différents. Et c'est vrai que je pense que le périmètre de chaque direction de développement durable s'est fait aussi en fonction un peu de l'histoire de l'entreprise. Moi, le périmètre de la direction, il est assez clair. On a trois grands rôles. Un rôle vraiment autour de la construction de l'offre et donc d'être garant de cette doctrine de produit impact et donc à la fois dans la co-construction avec les équipes métiers et puis ensuite dans la distribution des offres. On a un deuxième grand rôle qui est celui de porter les engagements de la banque en matière de décarbonation, en matière de politique sociale par exemple. Et puis on a un troisième rôle qui est de faire de nos collaborateurs des acteurs de la transition juste en les formant et puis en leur donnant les moyens finalement de s'accomplir en interne. Ce que moi je trouve absolument passionnant ce job et plus largement dans la direction qu'on a construite, c'est le fait qu'en fait on reproduit au sein de notre direction l'ensemble des métiers de la banque. Et en fait ça n'existe pas un expert finance durable. En fait, au sein de ma direction, j'ai des gens qui sont experts de la dimension durabilité, mais qui font du marketing, de la gestion des risques, de la data, du reporting, de la communication, des RH, tous les métiers de la banque. Et c'est vraiment pour nous la rencontre entre l'expertise sur la durabilité et les différents métiers de la banque qui fait qu'on arrive vraiment à transformer ce métier de banquier et à faire ce que moi, je résume vraiment notre rôle comme ceux qui construisons la résilience de l'activité de la banque et faire en sorte que dans 5 ans, dans 10 ans, la banque soit toujours là, son activité soit là, malgré les crises qu'on va irrémédiablement traverser et en anticipant finalement les changements de comportement brutaux de nos consommateurs ou les changements évidemment réglementaires qu'on anticipe en particulier sur nos sujets. Donc, ce qui est passionnant, c'est la dimension systémique et c'est le fait finalement d'englober l'ensemble des activités de la banque dans sa transformation.
Alors, tu écrivais il n'y a pas très très longtemps sur LinkedIn, et là je te cite, hein, notre métier exige technicité et empathie, patience et co-construction pour amener les équipes dans le changement de leurs pratiques. Est-ce que tu pourrais donner quelques leviers d'action que tu as, et même au sein de la direction, et peut-être quelques réussites, parce que j'imagine effectivement qu'il faut changer des habitudes, etc. Pas toujours évident quand même.
Ouais, bien sûr. En fait, c'est vraiment ça. Je crois que le levier principal, il est dans la compréhension du métier de chacun et finalement des enjeux de leur métier. Et en gros, on arrivera à changer des habitudes, à les aligner finalement entre leur quotidien et les objectifs de l'entreprise à mission et plus largement les objectifs stratégiques même de la banque, si on comprend quels sont leurs leviers à eux et qu'on arrive finalement à construire ce compromis. Donc je parle de compromis de manière assez à dessein. On ne peut pas avoir une position ultra militante quand on est dans ce métier. En fait, on peut avoir des convictions très fortes et je crois que c'est ce qui nous caractérise en particulier à la direction. Mais en tout cas, dans l'exercice de notre métier, à un moment donné, on se doit de faire des compromis et d'y aller aussi étape par étape. Je crois que ça, c'est vraiment la clé. Une conduite du changement, ce n'est pas du jour au lendemain. La prise en compte de nouveaux enjeux, il faut du temps pour former, pour que les gens comprennent et s'approprient. Donc parfois, tu parles peut-être justement d'échecs. Disons, je dirais que je pense que la plus grande frustration qu'on peut avoir, c'est le temps que ça prend. Et finalement, de voir que le temps que les gens comprennent le sujet, se l'approprient. Alors, je ne le dis pas de manière... on a tous des priorités. Exactement. C'est des sujets qui sont techniques. Nous, on est au cœur de ça depuis un certain nombre d'années. C'est pas le cas des autres et c'est absolument normal. Mais voilà, le temps qu'il y ait l'appropriation de ces enjeux, et puis dans l'appropriation, quand on se l'approprie, forcément on le fait un peu différemment de comment nous on l'aurait fait. Donc finalement il y a à la fois le temps et puis la façon finalement dont c'est mis en œuvre qui est un petit peu différent de comment nous on aurait anticipé il y a un an ou il y a 6 mois. Donc je dirais que c'est la frustration la plus grande à gérer, mais en même temps quand on voit finalement que l'impact qu'on a à travailler justement dans une grande entreprise comme ça qui se modifie, c'est ultra enrichissant et extrêmement positif. Moi je pense que ma plus grande fierté, ça a été justement dans la partie asset management où un gérant qui était vraiment le plus réfractaire, un des plus réfractaires à changer sa méthodologie, où j'ai eu beaucoup de discussions avec lui sur l'intérêt d'intégrer les enjeux extra-financiers dans sa compréhension, etc. Vraiment eu beaucoup de débats. Aujourd'hui c'est lui qui pilote la méthodologie et comment cette méthodologie évolue. Donc ça c'est ma plus grande fierté, mais ça nécessite patience.
Et empathie.
Exactement.
Je te propose qu'on finisse cet épisode avec l'instant musical.
Ouais.
Donc je finis toujours les épisodes avec le coup de cœur musical de l'invité. Qu'est-ce que ce serait pour toi ?
Je voulais choisir quelque chose qui clairement soit en lien avec ce qu'on avait évoqué. C'est la chanson Civilisation, une petite Civilisation d'Orelsan. En fait, quand on vraiment, déjà c'est un poète des temps modernes assez exceptionnel qui déjà a le mérite de parler à beaucoup de générations, puisque finalement il a mon âge, donc il n'est pas totalement jeune, mais bon, je crois qu'il a quand même un écho important aussi aujourd'hui auprès des jeunes. Donc et puis il est de plus en plus reconnu, alors que finalement il y a 10-15 ans il était un peu vu comme on voulait pas l'inviter. Aujourd'hui il est presque mainstream, mais en fait quand on écoute ses paroles sur Civilisation, il décrit vraiment très bien ce moment de bascule où on est en ce moment, cette nécessité, il parle d'apprendre à désapprendre. Je crois que c'est vraiment le sujet en particulier de la surconsommation, de la sobriété, c'est ça en fait, hein, c'est vraiment apprendre à désapprendre, à changer nos habitudes. Donc il y a une dimension sociale très forte dans ses paroles, il y a évidemment la dimension pédagogie et il y a quand même la vision d'essayer de construire un avenir en commun, quoi. Donc c'est un beau message.
Et ben on va l'écouter.
Je sais pas comment sauver le monde, et si je savais, je suis pas sûr que je le ferais. J'ai pas grand chose à t'offrir, à part te dire qui je suis et ce que c'est. Je crois jamais ce qu'on me dit en premier, les mensonges circulent plus vite que le vrai. J'ai couru après le bonheur, sans prendre le temps de savoir ce que c'est. J'essaie d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir autre chose que des regrets. Quand tu verras 2022, je comprendrai qu'ils se mettent à pleurer. Ils disent que tout va s'effondrer, qu'on va y passer dans 3 degrés. Je pensais que la science allait nous sauver, mais j'ai de moins en moins confiance au progrès.
Merci beaucoup, Adrienne, de toutes ces explications. Je pense qu'on a bien creusé quand même pas mal de sujets, donc c'est assez bien ce que ça donne à la fois les dimensions sur les services financiers, sur les actions de la Banque Postale, et puis aussi pas mal de, je pense, un bon retour d'expérience sur le comité de mission notamment, parce que c'est vrai que c'est un comité de mission très particulier, mais je pense que ça peut intéresser aussi d'autres grandes entreprises. Donc un grand merci à toi, et puis à bientôt.
Merci Vivien, à bientôt.
Merci beaucoup de votre écoute, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai une petite faveur à vous demander. Est-ce que vous pourriez noter l'épisode et le podcast de la manière la plus favorable possible sur Spotify ou sur Apple Podcast, et même si vous le souhaitez, de laisser un commentaire. Ça permet d'en améliorer le référencement et ainsi de faciliter la découverte du podcast par d'autres. Également, si vous avez des invités à me recommander, que ce soit des experts ou des entreprises à mission à inviter sur le podcast, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn ou sur mon site internet www.lamachineascence.fr. J'en ai terminé pour aujourd'hui, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.